Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues. Le groupe Deep Purple, dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, a effectué un virage sérieux durant l'année 1974, année qui a changé son style musical en profondeur, même si on retrouve beaucoup de ses ingrédients caractéristiques, en particulier la virtuosité de ses musiciens. En 1973, il y a eu l'album « Who Do We Think We Are ?», mais après la période flamboyante de Mark II, la corde est usée. La période qui nous intéresse aujourd'hui court de 1974 à 1975, avec deux albums enregistrés par ce qu'on a appelé le Mark III, un album avec le Mark IV, et en parallèle un album par le nouveau groupe de Ritchie Blackmore, parti fonder Rainbow. Mark III est constitué avec David Coverdale au chant, successeur de Ian Gillan, et Glenn Hughes au chant et à la basse, successeur de Roger Glover. Puis en 1975, le Mark IV inclut le guitariste Tommy Bolin à la place de Ritchie Blackmore. À l'époque, Deep Purple produit une sorte de blues funk avec des voix soul, rock, pendant que Ritchie Blackmore, lui avec Rainbow, reste fidèle au hard rock pur et dur. Juste teinté de musique médiévale et de fantasy dans les paroles. Burn est le 8e album studio de Deep Purple, sorti en février 1974, et le premier donc à présenter le nouveau chanteur David Coverdale, alors inconnu, et le bassiste-chanteur Glenn Hughes, qui lui venait du groupe Trapeze. L'album est enregistré à Montreux, en Suisse, en novembre 1973, avec le studio mobile des Rolling Stones. Dès lors, le son hard rock de Deep Purple est devenu plus orienté boogie, incorporant des éléments de soul et de funk qui deviendront beaucoup plus importants encore sur l'album suivant, Stormbringer. Nous allons commencer avec le titre Burn, qui va donner le nom à l'album. Ce fut la première chanson de la gamme Mark III. La chanson faisait l'ouverture des concerts du groupe pendant les deux années suivantes, prenant le relais de Highway Star. Et pour montrer l'impact de ce titre, je note qu'après la séparation de Deep Purple en 1976, David Coverdale a formé son propre groupe, Whitesnake, qui a repris les titres de Deep Purple de l'ère 74-75. Il a même été rejoint par des membres de Deep Purple tels que John Lord et Ian Paice. De son côté, Glenn Hughes a aussi repris Burn lors de ses concerts solo, ainsi qu'avec son futur groupe Black Country Communion.
Yeah!
c'était Burn, qui veut dire brûle, par Deep Purple, sur OxyWeb Radio. Burn a atteint la 3e place dans les charts du Royaume-Uni pour les albums, la 9e place du Billboard 200 américain et la 1ère place dans 4 pays européens, dont la France d'ailleurs. En 2004, Burn a été remasterisé et publié avec un titre bonus, Coronarius Ready, qui a été enregistré pendant les sessions d'enregistrement de l'album Burn, et qui jusque-là n'avait été utilisé que comme phase B du single Might Just Take Your Life. En 1974. Il apparaît comme un morceau bonus, donc, sous forme remixée d'ailleurs, sur la réédition de la version anniversaire de l'album. La version remixée de 2004 de Burn a ensuite été utilisée dans Guitar Hero Warriors of Rock, une série d'hymnes aux guitares rendues aux Guitar Hero. En 2005, un documentaire non autorisé sur l'album a été produit dans le cadre de la série The Ultimate Critical Review. Il comportait une toute nouvelle interview avec le bassiste-chanteur Glenn Hughes. Le premier single, Might Just Take Your Life, Pourrais-je juste prendre ta vie, sorti le 4 mars, fut le premier single britannique de Deep Purple depuis 2 ans. Et je dois avouer que j'ai hésité entre cette chanson et You Fool No One, une autre chanson tirée de l'album. Mais n'ayant que 3 places disponibles, j'ai retenu donc Just Take Your Life, car c'est l'occasion d'entendre l'orgue de John Lord mis en évidence. C'est aussi une chanson qui sonne comme de la heavy soul, une soul lourde que je trouve encore intéressante aujourd'hui. Globalement, je dois reconnaître que j'aime cet album parce qu'il a montré une facette originale du talent des musiciens de Deep Purple. C'était Might Just Take Your Life par Deep Purple sur OxyWeb Radio. Dans cet album, Ian Paice donne la pleine mesure de son talent. Dès le premier morceau, Burn, comme dans celui que nous allons écouter, mais aussi dans Fool No One, et ainsi que tous les titres au fond un peu rapide. Ian Paice produit un jeu de batterie impressionnant. Tous les titres furent écrits en collaboration par les membres du groupe, hormis Sail Away, qui fut écrit par Blackmore et Coverdale, ou A200, ou A200, un instrumental très rock progressif composé par les anciens Blackmore, Lord and Paice. David Coverdale est né en septembre 1951 à Saltburn-by-the-Sea, dans le Yorkshire. Il est principalement connu pour sa participation à Deep Purple et aussi avec son groupe Whitesnake. Il a aussi joué en duo avec Jimmy Page. Je considère que c'est un très grand artiste qui possède une voix puissante et éraillée qui colle parfaitement au style qu'il a manifestement réussi à imposer aux anciens de Deep Purple avec son nouveau compère Glenn Hughes. Glenn Hughes, lui, il est né en août 1951 à Canuck, dans le Staffordshire. Bassiste et chanteur, mais aussi multi-instrumentiste, il apporte le funk que l'on ressent avec son jeu de basse virevoltant. Au début, il a cherché à attirer la lumière sur lui, mais finalement, face aux anciens, il est resté dans le rang, mais a cependant beaucoup apporté au nouveau style de Deep Purple. Venu du groupe de hard rock Trapeze, après Deep Purple, il a joué dans Black Sabbath avec aussi Gary Moore, puis Joe Bonamassa dans Black Country Communion. Lui aussi est un artiste remarquable. Je présente l'excellent blues puissant et lent qu'est le titre Mistreated, qui veut dire maltraité. C'est le titre parfait pour un Ritchie Blackmore qui peut s'éclater avec deux solos de guitare remarquables. Le premier est lent et très blues, le deuxième, lui, il nous amène tout là-haut, tout là-haut. Bref, il montre aussi l'apport de David Coverdale et Glenn Hughes au plan du blues et du funk au groupe. Inutile de dire que ce titre en envoyait beaucoup lors des concerts.
I've been abused.
c'était Mistreated par Deep Purple sur OxyWeb Radio. Autant j'apprécie l'album Burn, autant Stormbringer m'a déçu dès sa sortie. C'est le 9e album studio de Deep Purple, il est sorti en décembre 1974 par la formation Mark III. L'image de couverture de Stormbringer est basée sur une photographie prise en juillet 1927. Elle montre une tornade passée près de la ville de Jasper dans le Minnesota. Elle fut photographiée par Lucille Hanberg. Elle est devenue une image classique de représentation des tornades aux États-Unis. La même photo a été utilisée pour l'album Beach Brew de Miles Davis en 1970 et l'album Tinderbox de Siouxsie and the Branches en 1986. Stormbringer n'est pas une référence volontaire à l'épée d'Eric de Menu Bonnet, héros inventé par Michael Moorcock, car David Coverdale ne lira ce roman que plus tard. Au départ, l'album devait s'appeler Silence, avec un projet de pochette représentant une jeune femme avec l'index posé sur ses lèvres. Mais après plusieurs hésitations, l'idée de la tornade dévastatrice, à l'image du résultat jouant de l'allégorie des concerts du groupe à l'époque, sera retenue. Richie Blackmore a quitté Deep Purple après Stormbringer et sa tournée de promotion, invoquant son peu d'intérêt pour le style funky. Avec le temps, je pense finalement que cet album est meilleur qu'il n'y paraît. Il faut juste s'arrêter et l'écouter sans chercher à le comparer à Machine Head ou In Rock, car ça n'a vraiment rien à voir. Glenn Hughes fait encore l'éloge de l'album et du jeu de Richie Blackmore. Pour lui, Richie a joué à merveille sur cet album et la voix soul de Coverdale est aussi très très bien. Voici donc Stormbringer, écrit par Richie Blackmore et David Coverdale. J'aurais pu passer aussi Soldier of Fortune, une ballade blues rock un peu mielleuse à mon goût, écrite par les deux mêmes compères. Mais non, je reste sur ma première idée, Stormbringer.
Thunder again. Dark cloud gathering, breaking the day.
C'était Stormbringer par Deep Purple sur OxyWeb Radio. Ritchie Blackmore parti, il fallait trouver un autre guitariste capable de compenser cette immense perte. Le style soul funky étant conservé, le choix s'est porté sur Tommy Bolin. Avec lui, Deep Purple a sorti son 10e album studio, Come Test the Band, en octobre 1975. L'album a été coproduit et conçu par le groupe et son vieil associé, Martin Birch. Ce sera le dernier album studio de Deep Purple avant la dissolution provisoire du groupe en 1976, ce qui en fait le seul album aussi à présenter Tommy Bolin, et le dernier avec David Coverdale au chant et Glenn Hughes à la basse et au chant. En effet, Tommy Bolin est décédé peu de temps après la sortie de l'album, alors que ni Coverdale ni Hughes ne seront impliqués dans le Deep Purple reformé en 1984. L'album s'est vendu raisonnablement bien à sa sortie, mais sans plus. Ces dernières années, l'album a reçu une réévaluation critique plus favorable sur ses propres mérites, en partie en raison des contributions d'ailleurs de Tommy Bolin sur cet album. Il faut quand même noter qu'aucun titre ne survivra sur scène, sauf auprès des fans. John Lord a fait l'éloge de la qualité de l'album dans des interviews des années plus tard. Connaissant la simplicité et la probité de John, je pense qu'il est sincère. Il faut juste arrêter effectivement de comparer cet album au passé de Deep Purple. J'ai choisi deux titres qui me paraissent bien résumer cet album et son potentiel. Un morceau commencé, composé par Tommy Bolin et Glenn Hughes, c'est d'ailleurs Glenn qui chante, c'est l'occasion alors d'entendre sa voix. Quant à Tommy Bolin, on note son jeu qui pouvait être incisif. Voici donc Getting Tighter, qu'on peut traduire par se faire serrer, un rock étonnant. We'll be right back. C'était Getting Tied Up par Deep Purple sur OxyWeb Radio. Thomas Richard Bolin est né en août 1951 à Sioux City, dans l'Iowa, et il est mort en décembre 1976 à Miami, en Floride. Il a notamment fait partie des groupes James Gang et donc du Mark IV de Deep Purple. Il est décédé d'une overdose à l'âge de 25 ans. Il n'a donc pas eu le temps d'imprimer suffisamment son empreinte dans l'histoire du rock. Lui, le fils d'un père suédois et d'une mère d'origine libanaise, et qui a joué dès son plus jeune âge avec des groupes locaux et fonda notamment Zephyr en 1969, qui aura une petite notoriété dans le Colorado. Ensuite, Tommy quitte le groupe et va former un groupe de jazz blues rock appelé Energy en 1972, dont plusieurs albums seront publiés à titre posthume pour Tommy. Le célèbre batteur de jazz Billy Cobham le repère et l'embauche pour son album Spectrum, qui contient d'ailleurs deux titres restés célèbres, Red Baron et Stratus, avec Leland Sklar à la basse et Ian Hammer au clavier. Puis Tommy rejoint le James Gang et travaille ensuite avec le batteur et claviériste Alphonse Mouzon pour l'album Mind Transplant. On est en 1974 et c'est après qu'il rejoint Deep Purple à l'été 1975 et son donc album Come Test the Band. Lorsque Deep Purple se sépare, il retourne en Amérique pour former le Tommy Bolin Band avec l'ex-membre de Santana, Michael Walden, à la batterie. Il a réalisé durant cette période deux albums solo, Teaser en 1975, sur lequel on retrouve entre autres Phil Collins aux percussions, Glenn Hughes au chant, ainsi que le compositeur et producteur canadien David Foster, ainsi que Ian Hammer au synthétiseur. Il y aura aussi l'album Private Eyes en 1976. Tommy Bolin décède le 4 décembre 1976 à 25 ans à la suite d'une surdose d'héroïne au Newport Hotel de Miami en Floride. Un vrai gâchis. Voici You Keep On Moving de David Coverdale et Glenn Hughes, où son jeu donne beaucoup de regrets pour ce talent parti si vite. c'était You Keep On Moving, tu continues de bouger, par Deep Purple sur OxyWeb Radio. L'essence est qu'on perd de Deep Purple à leur style funky pour revenir à un style plus hard rock, Ritchie Blackmore aspire à créer un groupe qui suivra ses idées. Le résultat sera plus de blues rock avec de la musique médiévale et des paroles racontant des histoires de fantasy. Et tout cela à grande vitesse. Au départ, Ritchie est en session studio à Tampa Bay, en Floride. On est en décembre 1974. Initialement, il avait prévu d'enregistrer le single solo Black Sheep of the Family, une reprise d'un titre du groupe Quatermass datant de 1970. Et aussi une reprise de 16th Century Greensleeves qui devait être la phase B de ce single. Les musiciens associés comprenaient le chanteur parolier Ronnie James Dio avec le batteur Gary Driscoll du groupe de blues rock Elf et le violoncelliste Hugh McDowell d'Electric Light Orchestra. Satisfait du résultat, Ritchie Blackmore a décidé d'étendre les sessions pour un album complet. Les autres membres d'Elf, le claviériste Mickey Lee Soul et le bassiste Greg Kober ont été utilisés pour l'enregistrement de l'album au studio Musicland à Munich en février et mars 1975. Bien qu'il ait été initialement prévu d'être un album solo pour Ritchie Blackmore, le disque est devenu en fait le premier Rainbow de Ritchie Blackmore et son nouveau projet de groupe. Ritchie et Ronnie James Dio ont fait un travail promotionnel pour l'album et peu de temps après sa sortie, tous les membres d'Elf, à l'exception de Ronnie James Dio, ont été virés et Blackmore a recruté par la suite de nouveaux musiciens pour perpétuer Rainbow. Cette première formation de Rainbow n'a jamais joué sur scène. Les photos qu'on peut voir sur les albums sont en fait des photos de Ritchie Blackmore avec Deep Purple et d'Elf jouant de leur côté. Voici Man on the Silver Mountain, l'homme sur la montagne d'argent, qui ouvre l'album et montre bien la voie suivie par Ritchie Blackmore, loin du funky et de la soul. L'album est sorti en décembre 1975. À noter la virtuosité de Blackmore, bien sûr, et surtout la grosse, vraiment grosse voix puissante de Ronnie James Dio.
I'm a wheel, I can roll, I can
Voilà, c'était The Man of the Silver Mountain par The Rainbow de Ritchie Blackmore sur OxyWeb Radio. L'album a été salué par les critiques britanniques pour son contenu lyrique, fantastique, héroïque et son style rock pour le moins étonnant. Cependant, le magazine américain Rolling Stone, lui, il a dénigré l'album, décrivant le jeu de Ritchie Blackmore comme apathique et ennuyé par rapport aux performances passées, et trouvant même le groupe complètement anonyme. Pourtant, Rainbow poursuivra sa démarche, et Roddy et James Dio l'a toujours considéré comme son album Rainbow préféré. Ronald James Padovani est né en juillet 1942. Il est surtout connu sous le nom de Ronnie James Dio. C'était un chanteur, auteur-compositeur et de heavy metal américain. Il a participé à de nombreux groupes tout au long de sa carrière. Il a commencé avec Elf, puis après Rainbow évidemment, mais aussi Black Sabbath, Dio et Heaven and Hell. Personnalité sympathique, dotée d'une voix d'une puissance incroyable, il fut toujours apprécié des membres de Deep Purple Mark II, ce qui reste une exception. En effet, les relations, par exemple, entre les chanteurs de Mark II et Mark III furent tout sauf chaleureuses. Avec Ronnie, le monde du heavy metal avait son représentant adulé. Sa disparition, des suites d'une longue maladie, fut terrible pour beaucoup de fans. Pour finir, je vous propose un extrait du dernier morceau de l'album, Still I'm Sad, je suis encore triste, une reprise instrumentale d'une chanson des Yardbirds de 1965, du Ritchie Blackmore de haute volée sur cet instrumental redoutable. La semaine prochaine, je vous parlerai de Stevie Wonder pour la deuxième partie de ces années 1970. Mais d'ici là, roulez blues!